9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à toutes et à tous. On est samedi et le samedi, c'est Jimmy et Flavie. Bonjour Jimmy.
Bonjour Flavie. C'est rigolo ça, Jimmy et Flavie.
Bah oui, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
C'est plutôt cool.
Et voilà, et on remercie d'ailleurs tous nos auditeurs pour leur fidélité à ce rendez-vous santé et bien-être d'RTL le samedi matin. On est ensemble jusqu'à 10h. Jimmy, vous êtes prêts? 3210, les mails pour vous, c'est à santé@rtl.fr. Vous êtes prêts donc pour les premières consultations, docteur?
C'est parti!
Quel est le programme de ce matin, sommaire? Oh là, gros plaisir! Bouffée de chaleur, sueur nocturne, trouble de l'humeur sont les symptômes les plus courants de ce que l'on appelle la ménopause, le phénomène naturel et inévitable pour toutes les femmes autour de 50 ans. Alors, quels sont les traitements hormonaux, naturels, efficaces pour soulager ces troubles? Est-ce qu'une sexualité épanouie peut se poursuivre au-delà de la ménopause? J'espère bien, dites donc! C'est notre dossier de la semaine.
Elles sont bourrées de protéines, de vitamines, de minéraux et même d'antioxydants. Il s'agit des graines de courge qui sont nos amis et nos alliés santé. Alors c'est vrai qu'on ne les connaît pas, mais elles pourraient nous aider notamment à mieux digérer et même peut-être à perdre du poids alors qu'elles ont du gras, mais du bon gras. C'est l'aliment de la semaine.
Allez, soyons plus sérieux. Mars bleu, c'est le mois dédié au dépistage du cancer colorectal. Pour le prévenir, il est recommandé de passer un test tous les 2 ans. C'est simple, c'est rapide, gratuit, ça peut vous sauver la vie. C'est notre routine importante de la semaine.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Mais on commence avec vos questions que vous pouvez poser chaque semaine à Jimmy, 3210 ou santé@rtl.fr. Alexandra qui ouvre le bal. Alexandra, elle nous écrit qu'elle a le nez qui coule en permanence, elle a beau le laver avec du sérum physiologique, rien n'y fait. Est-ce que les allergies peuvent donner ces symptômes en cette période de l'année?
Alors c'est vrai qu'avoir le nez qui coule, ça peut être lié à de l'allergie ou pas. Quand vous avez une infection virale banale, vous avez de la rhinite et ce nez coule, mais au bout de quelques jours, ça rentre dans l'ordre. Si ce n'est que chez les enfants, ça peut durer plus longtemps. Souvent, les parents se demandent, ou les grands-parents, mais pourquoi mon enfant a le nez qui coule en permanence? Ouais. Chez les tout-petits, ça peut couler 10, 15 jours, 3 semaines, sans trop qu'on s'inquiète. En revanche, si le nez coule en permanence et qu'en plus de ça, vous avez les yeux qui grattent, la gorge qui pique, que vous toussez, là, on peut se dire que c'est peut-être ce qu'on appelle une rhinite allergique, favorisée donc par de l'allergie.
Mais rhinite allergique dont on peut souffrir avant le printemps. Enfin, il n'y a plus de saison, bonne dame.
Mais vous avez entièrement raison. Notamment à cause du réchauffement climatique, la période d'exposition au pollen est de plus en plus longue et on a vu des patients souffrir de crises d'allergie en plein mois de février. Puisqu'on se rend compte qu'il n'y a plus de saison, comme vous dites, et on peut souffrir d'une rhinite annuelle. On est embêté de janvier à décembre et donc on a vu, en plus des virus de l'hiver, des patients se plaindre de rhinite allergique. Donc oui, janvier, février, mars sont des mois propices à l'allergie. Et je conseille à tous les auditeurs qui sont auditrices, qui sont allergiques, de jeter un petit coup d'œil, il y a un site internet, Carte Pollen France, et vous avez la carte de France avec tous les pollens en fonction des régions pour savoir ce qui peut-être être à l'origine de vos symptômes. Et vous dites, ah oui, en ce moment on est rouge, je comprends pourquoi j'ai le nez qui coule. Ça permet d'aider et de se dire, bon bah là, il est peut-être temps de prendre un traitement.
Vous nous rappelez le nom, Carte Pollen?
Carte Pollen France, tout simplement.
Très bien. Le sérum physiologique dont nous parle Alexandra, c'est bien pour se laver le nez?
C'est indispensable puisque ce nez qui coule, c'est vrai qu'il est embêtant, mais le problème, c'est que ça peut entraîner des surinfections. Donc même quand on a une petite rhinite allergique, eh bien, les sécrétions peuvent stagner au niveau des sinus, ça peut donner la sinusite, on peut avoir une otite chez l'enfant, on peut tousser, faire de la bronchite. Donc le premier des messages, c'est de rincer. Lorsque vous rincez le nez avec le sérum physiologique, vous vous débarrassez c'est aussi du pollen qui est éventuellement présent et donc ça fait partie intégrante du traitement. Libre à vous d'utiliser le sérum physiologique que vous voulez, la pipette tout simplement, le Stérimar, le Prorinel, vous achetez ce que vous voulez, mais il faut se rincer le nez.
D'accord, quand ça ne fonctionne pas?
Il faut passer à l'étape d'après, évidemment. Alors, soit on prend des anti-allergiques, qu'on appelle des antihistaminiques, qui sont disponibles sans ordonnance à la pharmacie. Vous pouvez avoir une petite boîte de 7 comprimés qui coûte un peu plus cher, mais qui peut vous dépanner. Et lorsque ça ne suffit pas, on peut prescrire un petit spray dans le nez à base de cortisone, sur prescription médicale, mais il existe aussi sans ordonnance, qui permet de calmer l'inflammation et de calmer ce nez qui coule, qui empêche les gens souvent de dormir. Et qui c'est un symptôme qui est parfois un peu insupportable.
Posez vos questions par mail à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed
à l'adresse santé@rtl.fr.
C'est Floriane qui vous écrit, Jimmy. Ah tiens, elle pose une question hyper intéressante sur les cotons-tiges. En quoi sont-ils dangereux pour les oreilles? Comment retirer le cérumen à l'heure où on nous dit de ne plus les utiliser?
Alors c'est vrai que le cérumen, on veut toujours lutter contre. On se dit, ah c'est un peu cracra, c'est un peu sale, t'as les oreilles sales. Mais souvent ça... on dit ça aux enfants, aux petits-enfants.
Pardon. Ça a une fonction le cérumen, non?
Oui, complètement. Même si c'est un peu cracra, en réalité, le cérumen, il a un intérêt. C'est que ça sert à lubrifier le conduit auditif externe. C'est le conduit qui mène au tympan, dans lequel souvent on va mettre le coton-tige. Et en fait, ça permet d'éviter d'avoir la peau qui soit irritée. Ce cérumen, il agit aussi comme une barrière pour empêcher les poussières, les corps étrangers ou certaines bactéries de rentrer à l'intérieur de l'oreille. Et il a même une fonction d'auto-nettoyage. En fait, on a des petites glandes qui vont produire ce cérumen et ça fait comme un tapis roulant. Et donc, on va éliminer le cérumen pour éliminer les cochonneries et éviter qu'elles ne rentrent à l'intérieur et donnent par exemple une infection de l'oreille.
Mais ça veut dire qu'il faut le garder ?
En principe, on ne doit pas y toucher. Et normalement, on n'est pas censé s'exciter contre ces cérumen. Alors, parfois, effectivement, on regarde les oreilles des enfants, on se dit « Oh, t'as les oreilles sales !» Il est possible, avec le coton-tige, de nettoyer l'extérieur du conduit. On évite de le rentrer à l'intérieur parce que le risque, c'est quoi ? C'est un, de faire mal à l'enfant. Et la perforation du tympan, eh bien, la cause la plus fréquente, c'est le coton-tige. Donc, on peut faire mal à l'enfant. Et puis surtout, on va tasser le cérumen tout au fond. On ne va pas l'enlever. Et à ce moment-là, on peut avoir un bouchon de cérumen qui pose problème.
Mais là, vous parlez des enfants, mais ça vaut pour nous, les adultes.
Exactement. C'est enfants et adultes. Tout le monde est concerné par le cérumen. Et on n'est pas tous égaux. Certains produisent beaucoup de cérumen. Une véritable ruche plein de cire qui est produite. Et certains en produisent très peu. Mais ce n'est pas un signe de saleté. Et souvent, on se dit « Ah, il est sale ». Non, on n'est pas tous égaux. On a la peau plus ou moins grasse, plus ou moins sèche. Et bien, c'est pareil pour les oreilles.
Et alors, il y a des alternatives qui sont proposées dans les magasins bio au coton-tige.
Oui, alors...
Ces petites palettes.
Il y a des curettes. Il y a des bougies. Vous savez, on met de la cire pour enlever le cérumen. Surtout, ne faites pas ça. Il y a des poires de lavement. Il y a des sprays. Il y a plein de dispositifs. Le seul truc que j'ai à vous recommander, c'est de prendre tout simplement de l'eau chaude, du pommeau de douche de la salle de bain, de la douche. Vous mettez de l'eau chaude dans les oreilles et le cérumen peut s'évacuer et ça suffit largement. Les petites curettes que vous pouvez trouver à droite ou à gauche, elles peuvent perforer le tympan. Elles ne sont pas totalement adaptées. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans ses oreilles. Et la seule chose à faire quand on a un vrai bouchon, c'est d'aller voir le médecin parce que c'est le seul qui pourra la retirer, le cérumen, pour éviter justement d'avoir une otite quand on va à la piscine ou quand les enfants entendent moins bien. Parfois, c'est un signe de bouchon de cérumen, le médecin l'enlève et on est très content, c'est très satisfaisant pour les patients et c'est un peu cracra satisfaisant, c'est entre les deux. On enlève le truc, on dit ah cracra mais en même temps, ça fait du bien.
On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL, mon cher Jimmy. Pour nos auditeurs, on va attaquer le dossier de la semaine et c'est pas que pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est pour nous aussi.
Complètement.
Voilà, parce qu'on va parler de la ménopause, voilà, ce moment charnière de l'existence avec donc le docteur Emmanuel Lecornet-Socol. On parlera des graines de courge et puis vous nous livrerez un message de prévention pour le cancer colorectal. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand, Jimmy Mohamed.
Ça va beaucoup mieux.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Ici dans Ça va beaucoup mieux, on reçoit sans rendez-vous. C'est votre fidélité justement qui fait le succès de cette émission. Il suffit d'être là tous les samedis entre 9h15 et 10h. Et c'est avec Jimmy Mohamed que l'on répond à toutes vos questions, mais que l'on en pose aussi à nos invités. Comme ce que nous allons faire tout de suite avec le docteur Emmanuel Lecornet-Socol, qui est endocrinologue à Paris, pour parler de la ménopause.
Oui, et vous êtes autrice aussi du livre « Et si c'était hormonal » aux éditions Hachette avec Caroline Balma. On pose une première question, déjà peut-être Flavie, sur ce que c'est qu'un endocrinologue, parce que on se dit endocrinologue, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est les hormones, qu'est-ce que c'est que l'endocrinologue ?
Donc l'endocrinologue, c'est effectivement le médecin des hormones. Alors le cardiologue, c'est pour le cœur, le dermatologue, c'est pour la peau, là tout le monde connaît un peu, mais en fait l'endocrinologue, c'est un peu moins connu, et c'est le médecin qui s'occupe des maladies des hormones, donc des glandes, par exemple la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, mais aussi les ovaires et les testicules, n'oublions pas nos glandes sexuelles. Et puis on s'occupe aussi des patients qui ont du diabète, donc diabète de type 1, diabète de type 2. Et nous sommes aussi les spécialistes de la nutrition. Donc alors tous les endocrinologues ne voient pas forcément des gens qui ont des problèmes de nutrition, mais quand on a une obésité sévère ou au contraire des problèmes de maigreur importante, ça peut être aussi certains endocrinologues qu'on va voir.
Emmanuel Lecornet-Socol, vous êtes là aujourd'hui pour parler de cette étape inévitable, j'irais, de la vie d'une femme que l'on appelle la ménopause. On va rappeler simplement dans un instant de quoi il s'agit, mais c'est incroyable parce que depuis qu'on prépare cette émission, en fait, on se fout de moi, on se moque de moi en disant « Hey, c'est une émission sur la ménopause » avec un gros clin d'œil. Et en fait, comme si c'était effectivement quelque part un sujet, comment dire, comme si c'était une étape, à partir du moment où on est ménopausé, on est un peu foutu. Vous voyez ce que je veux dire, docteur ?
Ouais.
Et moi, de devoir préciser « Ah non, mais moi, ça ne me concerne pas encore. » Ce qui est quand même un truc de fou, parce que c'est livrer quelque chose de très intime qui en dit long sur la situation finalement de ma vie, de ma santé et de mes organes féminins. et qui en même temps est presque, je le dis presque sur le ton de la défiance. Non, je ne suis pas encore ménopausée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très complexe quand même ce sujet.
Oui, la place de la ménopause dans notre société, ça a toujours été un sujet tabou. De toute façon, déjà, en fait, c'est tout ce qui tourne autour des règles.
Oui.
Même quand vous demandez à une jeune fille, alors, est-ce que t'es une femme ou non ? Enfin, il y a toujours quelque chose un peu de l'impudeur, d'aller chercher un peu de vouloir connaître l'intimité de l'autre, alors qu'effectivement, c'est quelque chose qui concerne soi-même, éventuellement ses proches et encore. Et donc, je trouve quand même qu'on en parle, enfin c'est bien là, dans des émissions très populaires, on puisse quand même aborder ce sujet, parce que finalement, c'est une étape de la vie qui arrive comme ça. On a la puberté au moment de l'adolescence, on a la ménopause vers 50 ans pour les femmes, mais la vie ne s'arrête pas.
Qu'est-ce que c'est que cette ménopause concrètement, et comment est-ce qu'on sait qu'on est ménopausé ?
Alors la vraie définition de la ménopause, c'est quand on n'a plus de règles depuis un an. Et en France, en moyenne, la ménopause, elle arrive chez les femmes à 51 ans. Alors c'est plus ou moins 2 ans à peu près. Parfois, il y a des femmes qui ont des règles qui s'arrêtent beaucoup plus tôt. Donc on appelait ça avant la ménopause précoce. Donc maintenant, on n'utilise plus ce mot. Quand ça survient avant l'âge de 40 ans, on appelle ça l'insuffisance ovarienne prématurée. Et quand c'est entre l'âge de 40 et 50 ans, on appelle ça la ménopause avancée. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes traitements forcément qu'on donne, et ce ne sont pas non plus les mêmes causes. Souvent, les femmes qui ont une ménopause entre 40 et 50 ans, c'est un peu plus tôt. Souvent, il y a une prédisposition génétique.
Ça veut dire quoi ? Que si dans la famille on a été ménopausée, si la maman a été ménopausée à un certain âge ?
Exactement. Souvent, si votre maman a été ménopausée vers 43, 45 ans, vous avez plus de risques vous-même d'avoir ça. Alors que quand c'est avant 40 ans, il faut aller chercher d'autres maladies éventuellement, ou alors ça peut être aussi parce qu'on a eu des traitements. Des cancers par exemple, avec des chimiothérapies, des choses comme ça. Donc là, on va avoir un abord vraiment différent.
Il y a quelque chose qui est intéressant que vous avez dit, c'est l'arrêt des règles. Mais ce n'est pas simplement, en fait, l'arrêt des règles. Et c'est ça que l'on peut aussi préciser.
Oui, parce que finalement, c'est une définition. Alors en plus, le nombre de femmes qui disent « Ah ben, j'ai eu mes règles, je ne les ai pas eues pendant 6 mois, après je les ai eues une fois, puis à nouveau 9 mois après, pourtant j'ai bien des bouffées de chaleur. Alors docteur, est-ce que je suis ménopausée ou pas ?» Alors on reste quand même sur cette définition, parce qu'en médecine, on aime bien avoir des définitions. Mais effectivement, on peut s'aider de beaucoup de choses. En fait, qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause ? C'est vos ovaires qui normalement fabriquaient les fameuses hormones féminines, notamment les estrogènes, qui s'arrêtent de fonctionner. Donc si vous n'avez plus d'estrogènes, il va se passer tout un tas de réactions dans votre corps. Parce que les estrogènes, ils sont pas juste là pour faire que vous avez des ovules qui viennent et pour avoir des enfants. Ils vont assurer une certaine masse musculaire, ils vont assurer par exemple la fermeté de la peau, ils vont assurer aussi des effets sur votre humeur, sur vos cheveux, sur les transpirations, sur les sécrétions vaginales, les sécrétions même de toutes les muqueuses. Donc en fait, il y a toute une série d'influences de ces hormones féminines, et le jour où les ovaires s'arrêtent de fonctionner, c'est là qu'on peut avoir la cascade d'événements.
Donc on comprend qu'on pourra avoir plein de symptômes divers et variés, mais souvent on parle de ménopause comme quelque chose de négatif, avec ses bouffées de chaleur. On parlera des traitements dans quelques instants, mais pour certaines femmes, il n'y a aucun symptôme, elles vont très bien, elles se plaignent de rien.
Oui. Alors en fait, il y a autant de symptômes que de femmes. Donc il y a des femmes où il va rien se passer en dehors du fait qu'elles n'ont plus de règles. Et parfois, pour certaines femmes, c'est aussi une libération. Quand vous avez eu des règles très douloureuses, je pense aux femmes notamment qui ont eu de l'endométriose, qui en ont beaucoup souffert pendant toute leur vie, qui avaient des règles hémorragiques, ou des femmes qui ont eu beaucoup de problèmes de contraception. Eh bien, enfin, ne plus avoir ces règles, ne plus souffrir, ne plus perdre de sang, ne pas avoir de carence en fer tout le temps, ne plus se préoccuper de sa contraception, ça peut être aussi, pour certaines, vécu comme une libération. Alors, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je ne suis pas là pour dire. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément une mauvaise étape.
Ça reste quand même une révolution, je dirais, dans la vie d'une femme, vécue de façon différente, ça je l'entends. Mais ça reste quand même une révolution. Et il y a quelque chose dont on parle, on a parlé beaucoup de biologie, parce que je suis avec des médecins, mais il y a le caractère aussi psychologique, qui, moi, me semble pour le coup assez mystérieux. Vous parliez de ces hormones qui peuvent avoir aussi une influence sur l'humeur. C'est peut-être se dire aussi que on est des femmes, mais est-ce qu'on est toujours une femme quand on ne peut plus procréer ? C'est aussi quelque part l'abandon peut-être de certaines ambitions, celle d'avoir un enfant. Enfin, voilà cette idée qu'on rentre dans la deuxième phase de la vie. Enfin, psychologiquement, il se passe quand même beaucoup de choses à ce moment-là.
Oui, oui, et c'est très difficile d'arriver à aborder, et c'est exactement ça. En fait, souvent, beaucoup de femmes se définissent par le fait qu'elles ont des cycles féminins, et ça régule aussi en partie leur vie. Mmh. Et à partir du moment où on n'a plus ces cycles, est-ce que je suis encore une femme ? Est-ce que le fait que je ne puisse plus... Je n'ai plus de fertilité naturelle possible, est-ce que ça continue de moi ? Mais... Alors, c'est un vrai sujet de société, et probablement que, heureusement, on ne définit pas les femmes et la femme que par le fait qu'elle ait des règles ou pas.
Et évidemment, évidemment. Et je pense que c'est une période aussi, et là je m'adresse à vous et à ces messieurs, mais que les hommes doivent entendre peut-être aussi dans la vie de leur compagne.
Oui, parce que comme c'est une étape qui est relativement brutale, ouais. Même si ça peut survenir sur plusieurs mois, voilà, c'est quand même un moment où on va se poser beaucoup de questions sur, voilà, j'en suis à la moitié de ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire. Et puis effectivement, probablement, il y a aussi tout ce renoncement à la famille, en tout cas aux petits-enfants, mais probablement aussi la possibilité de se projeter vers autre chose.
Ah, tu vas devenir grand-mère, quoi.
En plus, voilà.
Mais non, c'est plus.
Non, mais, et en plus, eh ben, ce changement hormonal, ouais. Cette chute des hormones, ça va avoir un impact directement sur le cerveau.
Mais c'est vrai.
Donc, on peut aussi être très fragilisé. Donc, vous vous retrouvez à un moment où, physiquement, vous voyez ce grand changement. Et puis, il y a des choses qu'on ressent aussi dans son corps. Et en plus, voilà, vous sentez que votre gestion des émotions peut être différente. Et donc, faut se faire accompagner. Enfin, c'est un moment qui peut être difficile. Il n'y a pas de raison que les gens autour de soi, on ne leur en parle pas. Et donc, bien sûr que les autres autour doivent soutenir.
Vous, on vous parle de votre andropause.
Mais non, c'est vrai que pour les hommes, effectivement, le miroir, les hommes, on ne se pose pas trop la question. Quand ils ont 50, 60 ans, on leur dit, ah, la prostate, ça, on peut le dire de temps en temps.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que pour l'andropause, mais qui est peut-être un phénomène un peu différent. D'ailleurs, ouais. L'andropause, c'est pas le miroir de la ménopause.
Non, pas du tout. Alors déjà, ça ne touche entre guillemets que 30% des hommes. Et puis, ça peut survenir de manière beaucoup plus étalée, en fait, dans le temps. Mais oui, les hommes aussi peuvent avoir de l'andropause. D'ailleurs, c'est un sujet qui est assez tabou, dont on ne parle pas beaucoup. Des hommes qui ont des bouffées de chaleur et qui, qui peuvent avoir, par exemple, des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète. Ça peut favoriser l'andropause. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à en parler.
Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à en parler avec vous. On a encore des questions à vous poser. Vous avez parlé de traitement. C'est pas une maladie, mais en tout cas, on peut être accompagné de façon allopathique. Hein, c'est ça que je comprends.
Oui.
On va parler de graines de courge aussi.
Oui, et de dépistage de cancer colorectal avec un test qui peut sauver des vies.
Donc à tout de suite.
Bah, évidemment.
Sur RTL.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Alors, dans un instant, on va parler de l'aliment de la semaine qu'interroge notre ami le docteur Jimmy Mohamed. Cette semaine, les graines de courge. Apparemment, c'est bien. Génial. Là, c'est pas un coup de gueule.
Non seulement c'est bon, mais en plus, c'est bon pour la santé. Enfin, génial. Vraiment, c'est gagnant-gagnant.
Très bien. On va parler de l'importance du dépistage du cancer colorectal. C'est le mois de mars qui est bleu.
Mars bleu.
Voilà, il y a octobre rose pour le cancer du sein. Il y a mars bleu pour...
Il y aura rouge-gorge en avril.
C'est vrai ? C'est quoi ça ?
C'est cancer ORL, donc de la gorge, favorisé par le papillomavirus.
Ah, tiens, alors grande campagne en ce moment, effectivement, il faut en parler à votre médecin. Il y a une possibilité, effectivement, aujourd'hui
de vacciner les garçons et les filles.
Exactement, jusqu'à un certain âge. Et c'est intéressant parce qu'après, ça peut se révéler à l'âge adulte et provoquer des cancers.
On a des vaccins contre les cancers, donc c'est cool.
Exactement.
S'en servir.
Mais pour l'heure, on parle de la ménopause. Compagnie du docteur Emmanuel Lecornet-Socol, qui est endocrinologue à Paris. Avant de parler de ces traitements, enfin en tout cas de ces médecines qui peuvent accompagner cette période charnière de la vie d'une femme, moi j'ai une question à vous poser. On parle souvent de la libido qui peut être impactée par cette période de ménopause. C'est vrai qu'on a moins envie de faire l'amour ?
Alors ça peut arriver, ça dépend des femmes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, parfois certaines qui sont libérées de leurs règles, de leurs douleurs pelviennes, de leurs problèmes de contraception, ça peut libérer. Mais c'est vrai que pour beaucoup quand même, on va pas se mentir, ça peut avoir un impact. Les estrogènes, c'est les hormones sexuelles. Donc quand vous avez une chute d'estrogène, vous pouvez avoir un impact sur votre libido. Mais, et c'est pour ça que c'est très important d'en parler, toute la sexualité ne tourne pas autour des hormones sexuelles. Donc même si vous n'avez plus d'estrogène, vous allez avoir toute une autre série d'hormones, de neurohormones qui vont fonctionner et qui vont faire que vous allez pouvoir continuer d'avoir une libido et d'avoir une vie sexuelle tout à fait satisfaisante.
Et si on a une libido conservée, est-ce qu'on peut aussi avoir des problèmes de sécheresse vaginale, moins d'œstrogènes, plus de sécheresse et donc des rapports douloureux, donc moins envie, un espèce de cercle vicieux, raison pour laquelle dans ces cas-là, non mais il y aura des traitements efficaces,
bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Pour trouver une sexualité.
Alors souvent, en fait, c'est l'impact numéro un qu'on retrouve en fait. C'est pas tant le côté psychologique que le côté d'être gêné. Parce que, voilà, vous avez cette sécheresse et vous pouvez aussi avoir des problèmes urinaires. On peut avoir plus de fuite urinaire, donc se sentir aussi moins à l'aise pendant les rapports. Et là, pour le coup, on a vraiment des choses, des aides qui peuvent être efficaces. Donc ça peut être des gels, par exemple, qu'on utilise, soit tous les jours. On peut donner des petits gels contenant des toutes petites doses d'estrogène, même chez les femmes qui ont des contre-indications, donc qu'on applique directement dans le vagin. On peut aussi utiliser des gels intimes au moment des rapports. Si on a des problèmes de fuite urinaire, on peut faire de la rééducation avec un kiné. Et puis parfois, quand c'est trop validant, il y a même des opérations qui permettent de, entre guillemets, remonter la vessie pour simplifier les choses et ne plus avoir ces problèmes. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin, avec son gynécologue, parce qu'il existe vraiment des solutions.
Quand on a été une femme soumise, je dirais, d'une certaine façon, à ces variations d'hormones, soumise à ces hormones avec des humeurs qui vacillent au moment de l'arrivée des règles, au moment de l'ovulation et tout, est-ce à dire que la baisse après de l'œstrogène va faire que on sera moins soumis à ce genre de choses? Est-ce que notre vie de femme ménopausée est à l'image ou à l'opposé de notre vie de femme réglée?
En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre vie, vous pouvez avoir eu des moments de votre vie où vous étiez très sensible à vos cycles, au moment de l'ovulation, dans la période juste avant les règles. Et puis, il y a d'autres moments où on est moins sensible. Et donc, en fait, au moment de la ménopause aussi, on peut avoir... on n'a plus toutes ces variations cycliques, donc on n'a plus le syndrome prémenstruel, on n'a plus troubles de l'humeur au moment des règles, tous les trucs de bonne femme, comme disent,
ces messieurs.
Et donc, oui, ça c'est vraiment, ça peut être aussi un soulagement hein, pour certaines femmes de plus avoir ça. Donc parfois, le fait d'avoir le manque d'hormones sexuelles, ça peut aussi amener de se sentir un petit peu triste, parfois un peu déprimée sans plonger vraiment dans la vraie dépression. On ne va pas aller forcément jusque là, mais voilà, ça peut arriver. Mais après, les choses vont revenir. Il faut arriver à retrouver ses repères avec ce nouveau corps et ses sensations.
On a parlé des crèmes à base d'œstrogènes. Si ça ne fonctionne pas, si on a d'autres symptômes, les bouffées de chaleur, un peu d'humeur triste, la libido, est-ce qu'on peut imaginer un traitement hormonal et comment ça se passe? Est-ce que c'est comme le traitement hormonal qu'on a pris quand on prenait la contraception?
Donc on peut utiliser des traitements hormonaux de la ménopause. Alors ils ont été énormément décriés, ces traitements hormonaux de la ménopause, en particulier au début des années 2000, parce qu'on a eu des grosses études d'américaines qui avaient expliqué que ça augmentait des risques de cancer et des risques cardiovasculaires. Pour résumer très rapidement, le problème c'est que ces études, elles ont été faites chez des femmes qui avaient plus de 60 ans, qui étaient à très haut risque cardiovasculaire, qui avaient beaucoup de diabète, d'hypertension, de cholestérol. Et les Américains utilisaient à cette époque des estrogènes d'origine animale, des estrogènes équins. Donc qui sont des choses complètement différentes de ce qu'on utilise. Donc aujourd'hui, maintenant on a beaucoup de recul. Et avec les hormones qu'on utilise en France, on utilise des toutes petites doses d'hormones naturelles, qu'on utilise souvent en patch ou en crème. Et on sait que si on respecte bien les contre-indications, donc on évite chez les femmes qui ont des très hauts risques cardiovasculaires, on l'évite chez les femmes bien sûr qui ont déjà eu un cancer du sein, mais sinon on peut tout à fait les utiliser. Et leur intérêt, il est surtout chez les femmes qui ont beaucoup de symptômes et notamment beaucoup de bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est probablement le symptôme le plus invalidant chez les femmes ménopausées. Parce que quand ça vous réveille 2 fois, 5 fois, 10 fois la nuit, vous êtes trempée, du coup, non seulement c'est très inconfortable, mais en plus, vous êtes épuisé parce que vous n'arrivez pas à récupérer la nuit. Et donc, c'est là que ces traitements sont vraiment très, très utiles. Alors, parfois, les femmes ont peur parce que les hormones, ça a mauvaise presse hein, actuellement.
Plein de femmes ne veulent plus prendre de contraception hormonale sous forme de pilule en se disant, mais il y en a marre, il y a des effets secondaires.
Oui.
Vous observez la même chose pour la ménopause?
Oui, exactement. Beaucoup de femmes disent, ah non, moi, docteur, je veux pas de traitement. Après, si tout va bien, si on n'en a pas besoin, ou qu'en utilisant des méthodes un peu plus naturelles, par exemple certains compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie, on se sent bien. Si le problème de sécheresse vaginale, il est résolu avec les gels, ben tout va bien. Mais c'est vrai que quand on a un peu, comme on dit, tout essayé pour les bouffées de chaleur et que ça ne marche pas, eh bien ces traitements sont aussi là pour ça. Donc il faut pas non plus se priver, surtout que c'est pas forcément quelque chose qu'on va prendre toute sa vie. On peut le prendre quelques années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après le diminuer petit à petit, et puis ça permet de passer un cap. On n'est pas obligé de souffrir absolument. Tout ça, c'est une discussion à avoir avec son médecin, sa sage-femme, son gynécologue.
Il y a quelque chose que l'on n'a pas abordé, c'est la prise de poids. On dit qu'elle est inévitable au moment de la ménopause, c'est vrai ?
Ou que des femmes ont du mal à perdre du poids, du coup, à partir du moment de la ménopause.
Oui. Ou tu prends du poids, mais voilà, exactement. C'est vrai ?
Alors, oui. Hommes et femmes prennent du poids avec l'âge. Ça, c'est comme ça, c'est physiologique. Dans toutes les études, partout dans le monde, on observe ça. À la femme, en moyenne, autour de la préménopause, les femmes prennent 7 kilos.
Ouais.
Ce qui est une moyenne. C'est comme ça. En fait, quand vous avez une baisse de votre quantité d'estrogène, vous perdez de la masse musculaire. Donc, il y a un petit peu plus de graisse qui arrive. Mais tout n'est pas perdu.
Oui, donnez-nous une bonne nouvelle quand même.
Non, mais c'est fou parce que parfois vous voyez des femmes qui sont hyper minces, quoi. Enfin,
ça n'arrive pas chez toutes les femmes. Et le meilleur moyen de prévenir ça, c'est l'activité physique.
Ouais.
Et donc on y revient, et c'est un leitmotiv. Et je sais que Jimmy est aussi un grand fan.
Absolument.
Et donc, si vous ne faites pas d'activité physique, ça peut être aussi une motivation de se dire, là, je suis en préménopause ou là, ça a commencé.
Ah, oui, avant que ça n'arrive, on commence aussi à anticiper les choses.
Ouais. Et ça, c'est plutôt un cercle vertueux, mon cher Jimmy. C'est que ça fait sortir, ça fait bouger.
Ça améliore
la libido. Où il faut faire...
Comment ? Ça améliore la libido.
Ça améliore la libido, ça fait battre le cœur un peu plus fort. Donc tout ça, c'est finalement plutôt bien et au bon moment. Vous restez avec nous, Emmanuel,
avec
le cornet socole, parce qu'on a encore peut-être des questions à vous poser. Vous mangez les graines de courge, vous ?
Matin, midi.
Ça, c'est le docteur Jimmy Mohamed qui est venu et qui vous a fait une petite ordonnance ou
quoi ? Vous allez répondre à ma place alors, vu que vous voulez en manger beaucoup.
On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
J'ai des bouffées de chaleur, mon cher Jimmy. Mais on va en parler dans un instant,
c'est
ça fait partie des questions.
Moi, je rigole bêtement, mais oui, c'est une question.
Non, mais en fait, il suffit aussi de parler de certaines choses. Ça, vous devez l'avoir, vous, parfois, des patients qui viennent dans votre cabinet et qui disent « Mais on a parlé de ça et ça y est, maintenant, j'ai mal là. »
Complètement, mais très... Alors, moi, j'ai la moitié des maladies de la Terre. Dès que je parle d'un truc, j'ai le symptôme le soir même.
On est d'accord, il y a quelque chose là, comme ça. Donc là, j'ai l'impression de rentrer en ménopause après vous avoir écouté, mais c'était passionnant, merci. Docteur Emmanuel Le Cornet Socole, vous restez avec nous. Allez, on passe à l'aliment de la semaine.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Alors, chaque samedi, on vous présente un aliment qui a soit tout bon, soit tout faux. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le tout bon.
Oui, avec les graines de courge qui sont clairement sous-cotées, on devrait en consommer plus régulièrement, même les graines d'une façon générale. Alors, c'est des toutes petites graines, mais qui contiennent plein de nutriments. Vous allez avoir du magnésium, du fer, du zinc, du cuivre. Et puis, mine de rien, elles sont riches en protéines. Souvent, on pense que pour avoir des protéines, il faut manger de la viande uniquement, mais on a des protéines d'origine végétale, de très bonne qualité. Et je vais vous donner un chiffre. Dans les graines de courge, vous avez, pour 100 grammes de graines, 20 grammes de protéines. Dit comme ça, ça parle à personne.
Non.
Mais si on compare au poulet, c'est 25 grammes de protéines pour 100 grammes de poulet. Donc ça veut dire que ces graines de courge, elles sont très riches en protéines. Alors évidemment que vous n'allez pas en manger autant que du poulet, mais c'est finalement un aliment qu'on devrait consommer plus régulièrement.
Et est-ce que c'est bourré de gras ?
Alors c'est vrai qu'on souvent dit, attention, c'est gras. Ouais. On entend ça aussi des noisettes, des amandes. Alors il y a le bon et le mauvais gras en quelque sorte. Dans les graines de courge, vous avez ce qu'on appelle des acides gras insaturés. Ne retenez pas le nom, c'est pour vous dire que c'est des acides gras qui sont protecteurs, notamment des maladies cardiovasculaires. Et dans les graines de courge, vous avez du gras qui vous protégera de certaines maladies, d'autant qu'elles sont riches en fibres. Et ces fibres, elles sont intéressantes puisqu'elles améliorent la digestion, elles limitent le risque de constipation, et on en parlera dans quelques instants. Une alimentation riche en fibres diminue le risque de cancer colorectal. Donc en augmentant nos apports en fibres, on diminue le risque d'un cancer, raison pour laquelle il faut consommer des graines de courge.
Elles ont aussi des antioxydants ?
Complètement.
C'est très à la mode, ça, l'antioxydant.
Ouais, et souvent on cherche des compléments alimentaires qui coûtent de l'argent, qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, alors qu'on a tout dans la nature, et vous avez dedans ce qu'on appelle de la vitamine E, et donc des antioxydants qui permettent de protéger de l'inflammation et de ce qu'on appelle du stress oxydatif. En gros, c'est des mauvais déchets que notre organisme va produire. Et puis, dans les graines de courge, on a un composé qu'on appelle le tryptophane. C'est un nom compliqué, mais qui permet de créer de la sérotonine.
C'est bon,
vous savez,
ça.
L'hormone du plaisir. Ça veut dire qu'au travers de notre alimentation, on peut être de meilleure humeur. Donc, en consommant des graines de courge, eh bien, on peut avoir une meilleure humeur. C'est pour ça qu'il faut manger des fruits et des légumes, même si ça paraît un mantra évident.
RTL, ça va beaucoup mieux.
Alors, on voit la vie en bleu, hein, au mois de mars, Jimmy.
Oui, puisque le cancer colorectal, c'est un des cancers les plus fréquents en France. Or, la bonne nouvelle, c'est que quand il est diagnostiqué tôt, eh bien, on va en guérir dans 90% du temps. Pour diagnostiquer un cancer colorectal, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes. Quand vous avez des douleurs abdominales, une perte de poids, bah, la maladie est peut-être plus avancée. Donc, il faut le faire avant que ça arrive, avant D'accord. qu'il y ait le moindre symptôme.
Mais à partir de quel âge alors ?
Entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, on vous invite à faire un test. Avec un test que vous pouvez récupérer chez votre médecin généraliste, chez le pharmacien ou sur un site internet qu'on appelle monkit.dépistage-colorectal.fr.
Et je fais quoi avec ce test ?
Vous avez ce test, c'est un test pour analyser votre caca, tout simplement.
D'accord, c'est pas il n'y a pas de toucher
Non, il n'y a pas de toucher rectal, ni quoi que ce soit. Vous faites caca, on vous donne un petit sac plastique, vous avez un petit pinceau, vous frottez un peu le caca, donc c'est votre caca à vous, vous fermez le pinceau, vous mettez ça dans l'enveloppe, vous envoyez, et en fait, ça part en analyse, et on va regarder si à l'échelle microscopique, dans le tout petit prélèvement que vous avez fait, est-ce qu'il y a un petit peu de sang. Et si jamais il y a du sang, c'est que peut-être il y a une tumeur, peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il y a quelque chose, on fait ce qu'on appelle une coloscopie. Et donc, on va explorer le côlon avec une caméra.
Okay.
S'il y a une tumeur, on s'en débarrasse, on fait le diagnostic et le traitement.
Et alors, c'est la plupart du temps, le test est négatif ?
Dans 96% du temps, le test est négatif. Ça veut dire que ça revient positif que dans 4% du temps.
D'accord.
Si votre test est positif, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer. Ça veut dire qu'on doit faire la coloscopie. Et dans plus de la moitié du temps, eh bien même là, la coloscopie est normale. Donc ce test, il sauve des vies, sauf qu'il y a simplement 30 à 35% de la population française qui le fait. Or, il est gratuit, il est efficace et il permet de diagnostiquer tôt, entre guillemets, un petit cancer pour avoir, entre guillemets, un petit traitement.
Mais je peux aller voir mon pharmacien en lui disant je veux faire le test
à partir de 50 ans, normalement
d'accord.
on reçoit une invitation, mais sinon avec votre carte vitale, vous allez voir le pharmacien, il vous file le test.
D'accord, ok, à partir de 50 ans. Juste rapidement, des conseils pour limiter le cancer colorectal.
On augmente ses apports en fibres, dont on a parlé tout à l'heure, attention aux graisses animales, l'excès de viande rouge, les nitrites dans les charcuteries, dans la viande, le tabac, l'alcool, et on fait du sport. L'activité sportive, elle protège du cancer colorectal malgré tout.
Bref, se bouger, on l'aura bien compris, c'est ce leitmotiv aussi de cette émission et celui donc de la bonne santé. On remercie le docteur Emmanuel Cornet-Sokol d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et on conseille votre livre.
Et si c'était hormonal, aux éditions Hachette avec Caroline Balma, il est très bien fait, très pratique. On apprend de tout sur toutes les maladies hormonales.
Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui en podcast ainsi que toutes les précédentes sur RTL. 3210 santé@rtl.fr, donc pour laisser vos messages. Jimmy, à lundi 8h30 dans la finale.
À lundi 20h dans Jour J, le magazine qui décrypte l'actualité.
Voilà, et puis on se retrouve nous samedi avec un grand plaisir en duo pour un nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. Juste après les infos, c'est Stop ou Encore avec Eric Jean-Jean. On vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Salut Jimmy.
Salut Flavie.
Ciao.
Jimmy Mohamed,
Flavie Flamand,
Ça va beaucoup mieux sur RTL.